Donc, bonjour, bienvenue à ce point de presse du CIS de l'Outaouais. Aujourd'hui, nous avons deux porte-paroles, Mme Josée Fillon, la présidente et directrice générale, ainsi que Dr. Carole McHenry, qui est médecin conseil à la direction de la santé publique. Donc, je vais d'abord citer la parole à Mme Fillon et puis ensuite Mme McHenry va nous faire quelques messages, puis on va passer à la période des questions. Donc, Mme Fillon, la parole est à vous.
Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Tout d'abord, un bilan de la situation régionale. Je vais vous dire que nous avons 450 cas confirmés COVID positifs dans la région de l'Outaouais. Un bond de 84 cas de plus depuis jeudi dernier. De ce nombre de personnes-là, 261 personnes sont rétablies, ce qui représente près de 60 %. Au niveau du taux par 100 000 habitants, c'est une donnée que j'apprécie suivre et que je vous transmets à chacun des points de presse. Au niveau du Québec, 532 habitants par 100 000 et dans l'Outaouais, 113 habitants par 100 000. Le nombre de décès, vous dire que malheureusement, nous avons un nouveau décès là, associé à la COVID. Donc, ce qui nous amène maintenant à un nombre de 12 décès dans la région de l'Outaouais. Alors, bien évidemment, je souhaite toutes mes sympathies à la famille et aux proches de cette personne-là. De perdre un proche dans une situation comme ça, ça demeure encore plus difficile. En ce moment, le nombre de patients hospitalisés à l'unité COVID, on parle de 10 patients de ce nombre-là. Un patient est hospitalisé aux soins intensifs. Le nombre d'employés affectés par la COVID, nous avons 75 employés de différents types d'emplois et de ce nombre-là, 34 personnes sont rétablies. Maintenant, au niveau du volet CHSLD, ressources personnes âgées, ressources intermédiaires, je vais vous faire un bref bilan de la situation de la région. Donc, la bonne nouvelle au CHSLD Petite Nation, hein, vous vous rappellerez à la période de Pâques qu'on avait annoncé une éclosion. On est fiers de dire que la semaine dernière, on a pu lever cette éclosion-là, fermer notre zone rouge puisque l'ensemble des résidents qui étaient COVID positifs sont rétablis. Et la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons eu aucun décès dans ce milieu de vie. Donc, je tiens vraiment à souligner le travail exemplaire qui a été fait de l'ensemble des équipes sur le terrain, le travail des gestionnaires, le travail de tous les types d'emplois, là, des gens qui sont mobilisés à travailler de près et de loin au niveau des résidents. Maintenant, au niveau du centre d'hébergement Lionel-Lémont, depuis le début de l'éclosion, nous avons maintenant 22 cas COVID positifs. Toutefois, en ce moment, dans le milieu de vie, il y a 17 personnes, 17 résidents, puisque malheureusement, nous avons eu 6 décès dans ce milieu de vie depuis le début de l'éclosion. Donc, ce sont des gens qui sont décédés et qui avaient un diagnostic de COVID positif. Maintenant, au niveau du volet CHSLD, toujours, mais CHSLD privé conventionné, donc CHSLD Champlain, je pense que vous étiez au fait qu'à ce moment-là, il y avait des cas confirmés. Et même chose pour la ressource, la GAP, donc une RPA pour personnes autonomes, semi-autonomes, pour lesquelles il y a aussi une éclosion. Pour moi, aujourd'hui, ce qui est important de mentionner, et par souci de respect là, des propriétaires de ces entreprises-là, je vais leur laisser l'opportunité davantage de vous faire part de comment ça se vit, comment ça se passe dans leur milieu. Ce qui est important de mentionner, c'est qu'on soutient ces propriétaires-là, hein, peu importe le milieu, à ce que, justement, les bonnes pratiques soient mises en place. Et on a même prêté main forte au niveau de la disponibilité de main-d'œuvre, puisqu'il y avait un défi de main-d'œuvre dans ces différents milieux. Ce que je tiens à souligner aussi, c'est qu'on a une excellente collaboration avec les propriétaires des résidences et les gestionnaires de ce milieu-là. Donc, pour moi, c'est important là, de le mentionner. Je souhaite aussi clarifier aujourd'hui le rôle du CIS de l'Outaouais, mais plus particulièrement au niveau de la direction de santé publique. Alors, depuis le début de la crise, c'est vraiment cette direction-là qui est en avant-scène, et pas juste au niveau de la région, mais au niveau aussi de la province du Québec. Donc, vous dire que la santé publique, lorsqu'il y a des situations d'éclosion, peu importe le milieu, que ce soit dans un magasin grande surface, que ce soit dans nos établissements ou peu importe le secteur, milieu privé ou, comme je mentionne, peu importe, sans distinction là, du milieu. Dès qu'il y a des gens qui circulent, qu'il y a de la population qui est présente, notre rôle, c'est vraiment de supporter l'entreprise. La direction de santé publique est vraiment là pour faire l'enquête, voir ce qui se passe dans le milieu, faire des recommandations et s'assurer que les recommandations sont mises en place là, par les personnes là, en responsabilité de ces milieux-là. Donc, bien entendu, peu importe le secteur, depuis le début de la crise de la COVID, on assure vraiment un soutien et on est vraiment en grande disponibilité pour répondre aux questions et s'assurer que les choses sont faites selon les règles de l'art. Maintenant, ce qui concerne peut-être plus précisément le Walmart cette semaine, bien, c'est la même chose hein, ce que je viens de vous mentionner, c'est que la santé publique suit de près depuis la déclaration du premier cas. Premier cas parmi le personnel qui y travaille. Donc, il y a vraiment une enquête qui a été faite, une enquête des cas confirmée, une analyse des cas, des contacts étroits. Hein. Depuis le début de la pandémie, on vous parle des suivis des cas étroits. Et la santé publique a ordonné, prescrit dans le fond des consignes d'isolement à la maison au besoin et comme ça se fait là, dans chacun des cas. Donc, il y a une équipe de santé au travail à la direction de santé publique qui a, entre autres, effectué une visite pour évaluer justement si l'ensemble des mesures préventives étaient mises en place dans le milieu. Toujours dans un contexte de rappel, je pense qu'on en parle à chaque fois, puis dès que vous ouvrez, peu importe le média, vous entendez parler de la COVID, des mesures à respecter. Donc, je souhaite vraiment le répéter aujourd'hui. Donc, la transmission communautaire, on sait qu'il y en a et tout ça. Et je souhaite vraiment rappeler à la population d'être à l'écoute des symptômes qu'ils ont, des symptômes associés à la COVID. Et dès qu'ils ont des symptômes, des doutes hein, sur un symptôme qui pouvait s'apparenter à la COVID, bien, ne pas hésiter à appeler au numéro de téléphone qui est prévu pour ça. Donc, le 1-877-644-4545. Et à ce moment-là, il y a une personne qui pourra faire l'évaluation et au besoin, donner un rendez-vous pour qu'il y ait un dépistage. Pour nous, c'est important que les gens n'hésitent pas et qu'ils fassent les appels. Il est aussi essentiel de rappeler à la population de respecter l'ensemble des mesures sanitaires hein, qui sont mises en place, que ce soit dans les déplacements, dans les commerces, en transport en commun, que ce soit auprès de nos familles. Hein. Je pense qu'il y a plusieurs éléments qu'on doit respecter au niveau de la distanciation sociale, le lavage des mains et tout ça là, qui est vraiment prescrit et au niveau des rassemblements. Alors, pour moi, ce serait le tour de mes messages aujourd'hui. Je laisserai maintenant la parole au Dr. McConway.
Bonjour tout le monde. Alors, depuis le début, on vous parle un peu des enquêtes, des signalements, etc. On est rentré dans une deuxième phase, si vous voulez, une phase plus de déconfinement. Alors, je vais vous parler un peu des consignes à ce niveau-là. Bien sûr, vous avez remarqué une légère augmentation du nombre de cas confirmés dans la dernière semaine. Ça n'a pas de lien avec le déconfinement à notre connaissance. C'est que nous avons changé. Vous savez, depuis le début, on invite les gens à se faire tester. Alors, effectivement, les gens symptomatiques toujours invités à se faire tester. Bien sûr, quand on commence à avoir des éclosions ou des grappes ou des agrégats ou des cas dans des milieux de vie ou dans des milieux de travail et qu'on augmente les tests ou les dépistages dans ces milieux-là, ça fait augmenter notre nombre de cas. Il y a eu aussi des petits goulots au niveau des résultats de laboratoire qui ont fait en sorte que, je pense que la semaine dernière, il y avait une journée où on a eu presque pas de cas, puis le lendemain, je pense, une quinzaine de cas. Alors, ça fait des fois un petit goulot quand les résultats arrivent tous ensemble. Et aussi, on a changé un peu les critères. Par exemple, je vous ai parlé depuis le début qu'un cas confirmé de COVID-19, c'est un cas qui est testé au laboratoire positif. Et ça peut être un cas aussi avec un lien épidémiologique, c'est-à-dire quelqu'un qui vit dans la même maison et qui développe des symptômes peut être considéré comme un cas par lien épidémiologique. Alors, depuis certains temps, on offre aussi le dépistage au contact, c'est-à-dire avec risque élevé, qui sont asymptomatiques, qui n'étaient pas le cas avant. Lors des enquêtes, si on établit des personnes de la même maisonnée, ce sont des contacts à risque élevé, sont asymptomatiques, on va leur offrir, on va les inviter à se faire dépister. Donc, ça peut, ça a fait une augmentation au niveau des cas. Les tests, alors, par contre, il faut, là, vous avez vu, on a levé les contrôles routiers, etc. Il faut quand même que les gens respectent les consignes, c'est-à-dire limiter les déplacements vraiment encore une fois pour des déplacements essentiels, toujours garder le 2 mètres. Je pense que les consignes se maintiennent, le 2 mètres de distanciation physique, le lavage des mains, l'hygiène respiratoire qui inclut maintenant le port du masque ou le port du couvre-visage quand on est dans un lieu public où on ne peut pas respecter nécessairement le 2 mètres. Madame Fillon l'a dit, on recommande, on invite les gens qui ont des symptômes à communiquer avec le numéro et à se faire tester, à demeurer à la maison si vous avez des symptômes et en appelant la ligne 1877. Depuis, à compter de demain, vous avez vu aussi qu'il va être permis pour nous, pas la grande, pour nous, entre autres, les rassemblements extérieurs. Alors, rassemblements extérieurs qui doivent encore, c'est les mêmes consignes à 2 mètres de distanciation des rassemblements qui vont être extérieurs avec un maximum de 10 personnes. On peut choisir, il peut avoir 10 personnes de 2 à 3 maisonnées, donc mais il faut que ce soit un total de 10 personnes. Et évidemment, le port du masque ou le port du couvre-visage est aussi fortement recommandé. Alors, c'est sûr que nous, à chaque fois qu'on déconfine, soit en milieu de travail, soit en milieu de garde, soit en milieu scolaire, on ajuste nos équipes, on ajuste notre capacité et on continue encore à recevoir tous les résultats et on continue à faire toutes les enquêtes nécessaires pour lorsqu'on a un cas qui est confirmé. Alors, c'est tout. Merci.
Peut-être, je vais me permettre, avant de passer à la période de questions, corriger une information que j'ai transmise un peu plus tôt concernant le nombre de cas au CHSLD Lionel et Mont. J'ai mentionné 22 cas au total, alors que c'est 21 cas total, 6 décès et 15 personnes actives. Donc, je tenais à rectifier l'information.
Merci pour cette rectification, Mme Fillon. Donc, on va passer à la période de questions. Comme mentionné dans le clavardage, j'invite les journalistes à faire une seule intervention et à poser leurs deux questions lors de leur intervention. Donc, tous ceux qui m'ont mentionné qui ont des questions, donc je vous invite à poser là, vos questions d'un seul coup. Donc, je vais tout de suite débuter avec Justine Mercier du journal Le Droit.
Oui, bonjour. En fait, mes deux questions, j'aimerais savoir à combien de tests on est rendu en moyenne chaque jour en Outaouais et quelle est la capacité là, dans la mesure où à l'échelle provinciale, on a vu aussi une augmentation du nombre de tests. Je sais que dans la région de Montréal, Laval et compagnie, on demandait beaucoup aux gens d'aller se faire tester, mais j'aimerais avoir un portrait de la situation ici. Mon autre question serait liée au déconfinement. À savoir, vous avez dit, Dr McConnery, que la légère augmentation observée récemment dans la région ne découle pas des premières étapes de déconfinement, entre autres le retour à l'école primaire. Par contre, avec les étapes qui s'en viennent, la saison des barbecues qui va recommencer demain avec les contraintes dictées par le gouvernement, dans 2 semaines, on va avoir aussi un salon de coiffure ou d'autres types d'activités qui vont reprendre. À quoi vous vous attendez pour l'Outaouais?
Je peux peut-être répondre en premier. Je pense que la capacité de test est environ 130 par jour, si je ne me trompe pas.
On est maintenant à 146 dépistages par jour en moyenne et on a encore une grande capacité de dépistage. Et vous vous rappellerez qu'on a aussi la clinique initiale qu'on avait mise en place, qu'on n'a pas démantelée, je vais me permettre de le dire ainsi, qui est toujours disponible en devenant le besoin de la population de procéder à l'ouverture pour faire un plus grand nombre de dépistages. Donc, ce n'est pas un enjeu au niveau de la région de l'Outaouais.
Pour ce qui est du déconfinement, oui, effectivement, nous, on a des équipes ici, comme vous le savez, depuis le début. On a aussi toute une équipe de santé au travail qui est rattachée à la santé publique depuis toujours, qui suit les milieux de travail. Donc, on a une équipe dédiée qui est pour les milieux de travail. Et comme d'habitude, on va suivre la situation et on va pouvoir ajuster notre capacité selon le nombre de cas confirmés. Ça arrive des fois qu'on a des équipes ici qui sont prêtes puis qu'on a très peu de cas. Donc, les heures, ils travaillent moins longtemps. Et si on a plus de cas confirmés, des fois, on va rappeler des gens pour se présenter au bureau pour pouvoir faire. On va avoir aussi des outils qui informatiques, des logiciels, tout ça, qui sont déjà là et qu'on est après attaché pour pouvoir nous aider. Mais on s'ajuste à chaque fois qu'il y a un déconfinement. Et même, par exemple, pour les commissions scolaires, on a produit des outils, puis on travaille en très, très proche collaboration avec les commissions scolaires. Et tout semble bien se passer.
Si je peux me permettre, ma question visait surtout à savoir si vous avez des projections de ce à quoi vous vous attendez.
Non, on n'a pas de projection. Depuis le début, vous le savez, il n'y a pas de projection. Nous, on fait des projections de personnel pour dire, ben si on monte à tant de cas confirmés par jour, ça nous prend tant d'infirmières. Si on est tant, alors on fait des moyennes, mais on peut pas savoir. On sait pas est-ce que les gens vont vraiment respecter aussi, hein? Parce que si les gens respectent vraiment les mesures de distanciation, les rassemblements extérieurs à 10, on le sait avec les modélisations qui ont été faites par l'Institut national de santé publique, aussitôt qu'on augmente le pourcentage de nos contacts, le nombre de contacts qu'on a sans respecter les consignes, le nombre de cas peut augmenter. Mais nous, on y va selon, avec des moyennes de cas confirmés, puis le nombre de personnes que ça nous prend par jour pour gérer tant de cas, mais on n'a pas de modélisation qui nous dit qu'est-ce que le déconfinement va nous amener comme cas.
Donc, je vais maintenant passer à Yannick Saint-Denis de la radio 104.
Oui, bonjour à tous. Ma question est concernant le Walmart de la CAP. Walmart Canada nous a confirmé que c'était 6 cas dans les 2 dernières semaines. Pourquoi ne peut-être pas avoir fermé le Walmart un peu d'avance, parce qu'on sait que c'était en collaboration avec la santé publique, là. Pourquoi ne pas avoir fermé le Walmart d'avance? Est-ce que c'est parce qu'on a pris les 6 cas, les 6 résultats en même temps? Et je me demandais aussi, parce que c'est arrivé à Joliette, où un Walmart avait finalement fermé pendant une semaine, donc pourquoi seulement fermer l'établissement pendant une journée? Et ma deuxième question serait, Ottawa va divulguer une carte qui va montrer les cas de COVID-19 par région. Est-ce qu'ici, en Outaouais, on pourrait s'attendre peut-être à la même chose? Je parle peut-être plus de la région de Gatineau pour les secteurs comme Buckingham, Gatineau, Elmer, Hull, etc.
Pour la situation du Walmart, je ne peux pas vraiment répondre. C'est vraiment l'équipe de santé au travail qui a géré cette situation avec les dirigeants du Walmart. Alors, je présume que lors de leur enquête, ils ont établi que le risque pour la population, il y a eu des inspecteurs, il y a eu des gens de la santé publique, santé au travail, qui se sont présentés, qui ont fait une inspection. Alors, je présume que suite à leur enquête, ils ont cru et ils ont déterminé avec certitude qu'il n'y avait aucun risque pour la population et le temps de fermeture a été établi avec les données qu'ils avaient. Pour la cartographie, comme je vous dis, il y a certains outils qui s'en viennent. Est-ce que prochainement on va pouvoir faire ça? Il y a une équipe aussi complètement qui travaille sur la vigie et la surveillance des cas, mais probablement qu'on va pouvoir faire ce type de données quand le nombre de. C'est quand on est rendu maintenant avec un nombre de cas importants, vous savez depuis le début que je vous parle de confidentialité des données, mais je pense qu'il y a une équipe effectivement de vigie et surveillance qui travaille sur une cartographie, mais quand sera disponible, je ne sais pas.
Je me permettrais peut-être d'ajouter que depuis quelques semaines, on fournit une mise à jour hebdomadaire d'un tableau avec le nombre de cas par municipalité. Donc, c'est possible d'avoir l'information sur le site Internet du CIS de l'Outaouais. Donc, l'information est disponible. Bien évidemment, en fonction du nombre, le nombre est précis, mais si c'est un nombre en bas de 5 sur la notion de confidentialité, c'est inscrit dans la municipalité 5 et moins. Et s'il n'y a aucun cas dans la municipalité, le nom de la municipalité n'est pas inscrit.
Donc, je vais maintenant passer à Laurie Trudel de Radio-Canada.
Bonjour. Ma première question est pour Mme McHenry. Madame Filion a parlé un peu du rôle et responsabilité de la santé publique dans le cas d'éclosion dans des résidences pour aînés, des CHSLD, tout ça. J'aimerais comprendre quel est le rôle et la responsabilité de la santé publique avant une éclosion dans ces centres-là. Je vous explique pourquoi je pose cette question-là. C'est très important parce qu'on a su, entre autres, qu'au Chartwell, domaine des Trembles, à Hull, dans le secteur de Hull, on ne parle pas encore d'une éclosion parce qu'il n'y a pas encore deux cas. Je suis très consciente de ça. Par contre, dans les mesures qui ont été exigées, des mesures supplémentaires à cette résidence-là, on nous dit qu'on va fermer la salle à manger. Donc, moi, selon ma compréhension des choses, c'était quelque chose qui aurait dû être fait bien avant de la part de la santé publique de l'Outaouais. Est-ce qu'il y a des inspections qui sont faites? Est-ce qu'il y a des rappels qui sont faits auprès des résidences privées pour s'assurer que les mesures de distanciation, les mesures mises en place, entre autres dans les CHSLD, sont aussi respectées du côté des résidences privées. Donc, j'aimerais savoir, au-delà des enquêtes épidémiologiques, qu'est-ce que la santé publique doit faire et a la responsabilité de faire pour s'assurer que des situations comme celle-là ne surviennent plus. Donc, ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est au niveau des écoles. On a parlé de certains cas probables, certains cas confirmés et tout ça. Comment est-ce qu'on pourrait s'assurer que l'information soit mise à jour et disponible pour les résidents de l'Outaouais au sujet du nom des écoles, du nombre de cas confirmés, du nombre d'employés de ces écoles-là qui sont atteints ou qui sont en attente d'un résultat de dépistage par rapport aux données pour les écoles? Comment est-ce qu'on pourrait avoir de l'information là-dessus?
Bon, je vais commencer avec les RPA. Comme Mme Fillon a dit, ce sont des propriétaires privés. Ils ont souvent leurs équipes même de prévention, contrôle des infections. Donc, oui, la santé publique est responsable de faire des enquêtes, des cas et contacts, de la gestion des éclosions, etc., mais toujours en partenariat avec des équipes de prévention, contrôle des infections. Le CIS de l'Outaouais a une équipe. Depuis le début, avant même qu'on ait de la présence de cas, on a créé au CIS de l'Outaouais, des cellules dédiées, si vous voulez, avec plusieurs directions, incluant les soins à domicile, les directions des soins infirmiers pour la prévention, contrôle des infections, avec une personne de la santé publique. Et on a fait une tournée des résidences pour personnes âgées, des RNI, des RI, même du réseau privé ou du réseau public. Et on a regardé avec eux les mesures. Par la suite, les propriétaires peuvent prendre des décisions, comme je vous dis, ont souvent leurs propres contractuels ou leurs propres personnels qui font de la prévention des infections. Et une fois qu'on a un signalement pour un cas ou une situation probable ou un cas suspect, là, tout de suite, cette cellule dédiée, si vous voulez, est mise en action et nous, on commence nos travaux. On n'a pas la capacité, bien sûr, de faire le tour des résidences pour personnes âgées, des RI, des RNI. C'est sûr que dans les CHSLD publics, c'est-à-dire on a des gestionnaires qui sont là, qui peuvent faire les consignes. Dans où c'est des propriétaires privés, on collabore, ils sont très collaborateurs, puis on n'a pas de problème. Nous, c'est sûr qu'une fois qu'on a un signalement, c'est notre travail d'aller de faire l'enquête et à ce moment-là, aussitôt qu'il y a une éclosion ou un cas où on va se déplacer et on va aller voir ce qui se passe, toujours accompagné de la prévention contrôle des infections qui, eux, vont donner des consignes avec nous, les deux. Pour ce qui est du milieu scolaire, vous savez, depuis le début, je vous le dis, ce sont des données confidentielles. Pour les enfants soit ont été testés pour les parents, soit qu'ils ont été testés, soit pour quelqu'un qui est retiré de l'école. Nous, encore une fois, on va recevoir les cas confirmés et à ce moment-là, on va intervenir auprès de l'école. Encore une fois, on ne veut pas que les enfants soient stigmatisés, discriminés, ni une école. Alors, on travaille en très étroite collaboration avec les directeurs de commissions scolaires. On a développé des outils pour remettre aux parents. On a aussi encore une cellule dédiée, si vous voulez, au milieu scolaire pour répondre aux questions des directeurs d'école, des enseignants, et ça fonctionne quand même assez bien. Les questions sont toutes dirigées à une seule place. et on a un groupe qui répond. On a remis dans les écoles les infirmières scolaires que nous, on avait pris pour faire des enquêtes ici. Et les infirmières scolaires qui sont connues du milieu scolaire nous consultent s'ils ont besoin. Mais pour les données en milieu scolaire, bien, encore une fois, quand on aura des cas confirmés, on fera une enquête. Et on va encore une fois rejoindre les contacts à risque élevé selon les critères qu'on a. Et le processus est en marche. On a une cellule, puis on a développé des outils pour les écoles et pour les parents.
J'ajouterais des éléments complémentaires à la première question concernant ce qui est fait au niveau des résidences personnes âgées, donc les résidences privées, les RPA. Il y a une équipe qui est vraiment mise en place, c'est ça, depuis le début de la pandémie. Et il y avait déjà, par le passé, avant même le début de la crise, des gens dédiés à justement à faire des évaluations de la qualité des milieux. Donc, cette équipe-là est sous la gouverne de la direction qualité. Hein, vous le savez, au CIS de l'Outaouais, on a une direction qui a cette responsabilité-là. Et il y a des gens qui, Dr. McConnell l'a mentionné tantôt, prévention, contrôle des infections, soutien à domicile, les experts de la direction qualité qui font des visites dans les milieux pour aller voir comment ça se passe, comment ça se vit. Est-ce qu'il y a un respect des mesures qui sont appliquées? Le CIS fournit aussi les EPI, les équipements de protection individuelle pour s'assurer que les gens aient le matériel de façon suffisante pour s'assurer d'avoir une protection individuelle. Donc, on est vraiment au rendez-vous à ce niveau-là. Donc, il y a vraiment une équipe. Il y a ensuite un feuillet d'information qui est fait, si la mémoire est bonne, c'est de façon hebdomadaire, où il y a avec l'ensemble des informations qui est transmis via le CIS et des informations, des directives qu'on reçoit de la part du ministère. Donc, l'information est transmise très régulièrement, sans compter les échanges téléphoniques et la disponibilité. Nos équipes, au-delà de cette équipe-là qui est mise en place, on a déjà des gens qui vont dans les milieux de ressources personnes âgées, de l'équipe de soutien à domicile pour donner des soins et services à la population. Alors, ce sont aussi nos yeux qui observent aussi des choses, des situations qui nous permettent justement de s'ajuster ou tout au contraire de féliciter justement la résidence parce que les choses sont faites selon les règles de l'art. Donc, on a vraiment mis en place une équipe, des modalités de communication pour s'assurer que l'information soit connue et pas seulement connue, mais bien comprise des exploitants là, de ces maisons-là.
C'est-tu normal que la salle à manger est encore ouverte à cet endroit-là après 10 semaines de crise?
Je sais pas, on va valider l'information que vous nous rapportez. Je suis pas au fait là, de ce volet-là, donc on va faire les vérifications nécessaires de notre côté.
Donc, on va maintenant passer à Elisabeth Séguin de CHIP FM.
Bonjour, mes deux questions s'adressent probablement à Dr. McConnery, puisque c'est elle qui a abordé la question des rassemblements. Dans la MRC Pontiac et dans d'autres MRC, évidemment, il y a beaucoup de gens dans les chalets en ce moment. Est-ce que le droit au rassemblement de 10 personnes et moins, etc., s'applique aussi à eux? Donc, ils pourraient recevoir des voisins qui font partie de la communauté dans leur cour, à leur chalet, par exemple?
Bien, je pense que oui. Si le chalet vous appartient, c'est-à-dire que c'est votre maison, ça compte comme une maisonnée, puis vous voulez inviter vos voisins pour un barbecue à l'extérieur, si vous gardez le 2 mètres, etc., oui, ça s'applique à vous. Si vous avez un chalet et que vous avez de la visite qui vient, dans le fond, c'est de garder, c'est un principe qui s'appelle un peu les « bubbles », c'est ça. Ça se fait au Nouveau-Brunswick aussi, mais il faut garder les mêmes maisonnées. C'est pas, ben, ce soir, j'invite trois maisonnées de mes enfants, puis demain, j'invite trois maisonnées de mes voisins. C'est idéalement de garder les deux ou trois mêmes maisonnées. Alors, si c'est, on va en fin de semaine au chalet, puis on invite quatre maisonnées, puis on est là pour la fin de semaine, bien, c'est pas nécessairement un rassemblement extérieur, premièrement, puis c'est probablement plus que 10 personnes. Donc, si vous vous déplacez pour aller à votre chalet, c'est votre maison, et que vous invitez vos voisins ou vos soeurs ou vos frères ou votre famille ou vos enfants pour un barbecue extérieur, ça s'applique à tout le monde. C'est pas nécessairement juste... donc, d'abord, que vous respectez les consignes du 10 personnes maximum avec deux ou trois maisonnées. Mais vous savez, les gens ont besoin d'être déconfinés. Là. Les gens, ils commencent à faire beau, tout ça. Mais en même temps, si les gens ne respectent pas, ben on peut toujours, puis on peut pas le faire, puis on peut pas avoir de la police des rassemblements, mais le directeur national de santé publique et le ministère pourraient décider de reconfiner et de remettre des barrages, ce qui n'est vraiment pas souhaitable.
Ma deuxième question est un peu là-dessus aussi. Est-ce que quelqu'un de l'Ontario, donc des résidents de l'Ontario qui ont des amis ou de la famille du côté du Québec, par exemple dans la MRC Pontiac, peuvent se rendre dans les cours pour aussi faire un rassemblement à cet endroit-là?
Ben, je pense qu'au Québec, si c'est des... On regardera pas. Non, je pense que c'est pas... on n'est pas là, non. Je pense que ça peut être des gens de Montréal. Ça peut être Montréal n'est pas confiné, l'Ontario n'est pas confiné, donc ça peut être des gens de l'Ontario, c'est pas un problème.
Merci.
Parfait. Donc, il semblerait que c'était la dernière question. Donc, c'est ce qui va mettre fin à ce point de presse. Donc, je remercie Dr. McConnery et Mme Fillon d'avoir été là aujourd'hui pour nous donner quelques informations. Donc, bonne fin de journée à tout le monde.